que je veux vous démontrer, c'est qu'il y a des tas de choses devant lesquelles on passe quotidiennement et on ne les regarde pas et on ne les voit pas.
On va prendre la rue Kléber. Vous allez me dire qui était Kléber.
Il était militaire, ça s'est passé pendant la Révolution française, il a écrasé les en Vendée, la contre-révolution, etc. C'est noté, et c'est intéressant de voir ça. Toutes les rues ont des noms. Si je demande quelle rue vous habitez...
Rue Anne-Franck.
Tu habites quelle rue?
Jean Moulin.
Qui était Jean Moulin? Qui était Anne-Franck? On avance. On va passer devant un bâtiment... à droite, et vous allez me dire ce que c'est avant que nous arrivions sur le sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment?
En dessous du centre de santé, c'est électrique. Dispensaire municipal. Avant, ça s'appelait un dispensaire municipal.
Bon, alors, le dispensaire ou centre de santé, Dominique Savatero, égale information, qui était Dominique Savatero? Non, c'était pas médecin, il était directeur du dispensaire municipal et qui est mort à exécuter à Brandebourg en 43. Alors, exécuté par qui, comment, pourquoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Ça rend très malheureux de ne pas avoir la réponse. Donc, là, on est vraiment, on va parler du monde du travail. Dans le monde du travail, il y avait des usines. À Montreuil, des usines se sont implantées à partir du 19e siècle. Donc, dans les années 1850, l'industrie va s'implanter à Montreuil. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'industrie. Et l'industrie s'implante parce qu'à partir de 1830-1850, il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. Avant, dans cet espace, comme en région parisienne et dans beaucoup de villes de la périphérie, dans les périphéries des villes, pardon, il n'y avait que des champs. Donc ici, il y avait des champs où on cultivait... pour manger des asperges surtout et de la vigne pour faire du raisin et du vin. Ces usines viennent se construire en lieu et place, à la place donc de l'agriculture. Cette usine qui vient s'implanter ici, implanter, donc se construire, est une usine qui traite les peaux de lapin. C'est-à-dire que les peaux de lapin sont ramassées dans la région et viennent ici se regrouper pour être traitées. Et donc ici, là, et à cet endroit ici, aussi, on a une usine qui est comme celle-ci. Alors, c'est une usine qui va regrouper des centaines de personnes, mais ces centaines de personnes sont au bout d'une chaîne, c'est-à-dire au bout d'un circuit, qui fait que les peaux de lapin, il y a des gens qui élèvent des lapins chez eux, quand ils tuent le lapin pour le manger, ils écorchent le lapin, ils retournent la peau et ils la mettent à sécher. Et il y a des gens qui viennent ramasser les peaux de lapin. Et donc, ils les ramassent en passant dans les rues, simplement, ou dans les campagnes, en criant « peau de lapin, ferraille à vendre », ils rachètent et les apportent ici. Alors, ce sont des centaines de gens qui font ça et qui amènent ici des millions de peaux de lapin. Alors, millions, pas à la fois, hein, dans l'année. Et ces peaux de lapin, elles vont être traitées. Parce qu'il faut imaginer que, aujourd'hui, on a des vêtements en laine, en nylon, on a des cols en fausse fourrure. À l'époque, la fausse fourrure n'existait pas. Le nylon, c'est fait avec du pétrole. Du pétrole. Avant, il n'y avait pas de pétrole. Soit on prenait des choses végétales, du lin, par exemple, du chanvre, qui sont des plantes, ou bien on prenait des poils d'animaux, comme le mouton, et on faisait de la laine. Et si on voulait faire de la fourrure, et il fallait qu'on prenne la peau la peau du mouton ou la peau du lapin. Mais le lapin, c'est grand comme ça. Et le lapin, c'est tous la même couleur. Il y a des gens qui ici vont, des chimistes, ils vont prendre la peau de lapin et on va la friser. On va la raser. On va la teindre. C'est-à-dire on va lui donner une couleur. On va lui donner une autre forme. On va les coudre. Et après, on va voir des peaux qui sont grandes comme ça. Parce qu'elles ont été cousues, parce qu'elles étaient teintes, parce qu'elles étaient rasées, et ça va donner, on va faire des manteaux. Et ces manteaux, ça va durer jusque dans les années 70. En 1968, pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'était il n'y a pas longtemps, mais c'était les Jeux Olympiques de 68 étaient en France, toute la délégation française était habillée en peau de lapin, fabriquée ici, orange. C'était flashy, hein, ça on les a vus. On les a vus aussi sur les pistes. Mais voilà, c'était... Et après, il y a eu disparition de cette production, de cette fabrication, parce qu'il y a eu une concurrence, il y a eu d'autres productions dues à la chimie du pétrole. Donc, dans ces bâtiments, les gens travaillaient. Et on voit la forme du bâtiment qui est fait pour que les gens travaillent, pas dans les meilleures conditions pour eux, mais dans la meilleure production pour le patron. Regardez la forme de ce toit. Ça, ça s'appelle des toits. Alors, en anglais, on dit « shed ». En français, on dit « shed ». Ou « toiture à redon ». Alors, pourquoi ça a cette forme ? Ça, on voit, quand on se déplace un peu, on voit qu'il y a une partie qui est couverte par des tuiles, de ce côté-là, et la partie qui est de ce côté-là est vitrée. Et elle est faite, elle est au nord, de manière à ce qu'il y ait un éclairage. Oui, voilà. Alors, pas trop de soleil, mais qu'on voit bien, que ce soit très éclairé. Le bâtiment qui est en face, il est identique. On voit de grandes baies. Comment il est construit ? Quel est le matériau qui est utilisé ? Des briques. Oui, c'est fait avec des briques et avec du fer. La qualité de ce type de matériau, c'est de pouvoir être construit rapidement et de manière, on peut faire ce qu'on veut. Grand, petit, moyen, haut, bas. Alors on voit ça, les yeux. Hein? Alors ça s'appelle, si on veut être savant, ça s'appelle un oculus. Donc ça marque le paysage. On passe des champs à des usines. En même temps que le paysage, l'environnement, ce qu'on voit change, il y a aussi d'autres choses qui changent. Le paysage, c'est avec les yeux, on le voit. Et il y a d'autres choses. On parle de peau de lapin. Alors, on va aller un peu plus loin. Tout à l'heure, on verra qu'il y a aussi une autre usine de peau de lapin. Mais il y a une usine de mécanique, il y a des usines de traitement de surface, il y a d'autres ateliers ou usines. Celle-ci a la particularité de sentir. Elle sent très fort. Parce que pour conserver les peaux de lapin et pour éviter qu'il y ait des bêtes qui viennent dedans, on met un produit, hein, qui s'appelle la naphtaline. Et la naphtaline, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Alors, quand vous dites, moi j'en ai mis, à la maison on en a mis, ça sent un peu. Là, c'est pour traiter des millions de peaux de lapin. Donc, on met des dizaines de tonnes de naphtaline. Alors, il y a une chose qui est intéressante, parce que le fait que cette odeur imprègne le quartier fait que les gens savent s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Imaginez que la personne qui habite là-bas sente la naphtaline. Le vent vient du sud et lui ramène l'odeur. Si le vent vient du sud, il va faire beau. Au même titre, la personne qui habite là-bas et qui sent la naphtaline, elle se dit, bah, il va faire froid, le vent vient du nord. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a une autre dimension, un autre sens. Hein, les usines vont créer d'autres choses, c'est les sons, les bruits. On va entendre. Aujourd'hui, à l'école, quand le cours est fini, qu'est-ce qui se passe ? Ça sonne. Les usines, pareil. Le matin, au début du travail, il y a des cloches, des sifflets ou des sirènes qui marquent le début du travail. Et il y a aussi, le soir, quand c'est fini, des sifflets, des sirènes qui marquent le son, qui marquent la fin du travail. Ce qui fait que l'on peut savoir quelle heure il est. Parce qu'on sait que cette usine, elle commence à 7 heures. Et à 7 heures, ça siffle. On entend Mais l'autre, qui se trouve un peu plus loin, il y a une usine qui fait du papier peint dans le Bas-Montreuil, elle a mis une sirène, et l'autre, une sirène, et l'autre a mis un sifflet de paquebot. Vous savez, comme c'est dans les Titanic. Ça sonne comme ça. Et c'est une usine qui fait du bois, tranchage et déroulage, à une sirène de paquebot. Donc on entend dans la ville, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, les sirènes, les sonneries de l'embauche, comme à l'école, la cloche qui indique la fin du cours. Donc, le paysage va être marqué par les usines, par le son et par aussi les odeurs. C'est intéressant parce qu'il y a des odeurs À Montreuil, il y a d'autres usines qui s'implantent. Il y a une usine qui, sur la rue de Paris, fait, qui s'appelle Ferno, et qui va faire de l'anis. Il y a une usine qui s'appelle Créma, et qui fabrique des bonbons. Et alors là, c'est pareil. Ça sent la fraise, ça sent la réglisse, ça sent des odeurs en fonction de la fabrication. Et puis on voit les fumées qui sortent, elles sont roses, vertes, marrons, en fonction de, des bonbons qui sont fabriqués. On va avancer, toujours au soleil, on a la chance. Et là, on s'aperçoit que le paysage a un peu changé. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des usines. Et je vous ai dit, à l'endroit où il y avait les bureaux, c'était aussi des usines. Là, on voit que c'est un peu plus bas, il y a des ateliers. Et puis, il y a des maisons. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Les arbres. Tout à l'heure, il n'y avait pas un arbre. C'était que des cours, il n'y avait pas du tout de végétation. Et puis là, hop, on s'aperçoit qu'il reste la végétation. Donc là, on est au soleil, toujours très bien. On est à l'angle de la rue Louis Descubes et la rue du sergent Bobillot. À Montreuil, il n'y a pas de grosses industries, sauf celles qu'on a pu citer tout à l'heure, Créma, Pernod, Chapal, et tout le reste. Ce sont des ateliers, des petits ateliers, qui souvent sont liés à la maison d'habitation. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit un atelier comme ça, avec une entrée fournisseur, une entrée produit, et puis d'autres, on a le pavillon. C'est-à-dire on a la grande entrée, et puis on a au-dessus le logement des bureaux. Et ça, c'est la configuration qu'on va retrouver souvent. Ici, on avait, à cet emplacement, une usine à gaz. Là, à la place de ces immeubles. Je peux vous dire, cet immeuble est chauffé au gaz. Comment je peux le savoir?
Ouais, il est dans le mur, on ne sait pas.
Non, regarde les petits trucs qui sortent, là. Tu vois les petits trucs ronds entre les fenêtres? Voilà. Ce sont les chaudières. Avant, le gaz, il était fabriqué ici. On distillait, c'est-à-dire on faisait chauffer du charbon et on sortait du gaz et qu'on stockait dans d'immenses bouteilles. Ça s'appelait des gazomètres. C'était énorme. C'était des cuves métalliques énormes. Et elles ont été construites, celles-ci ont été construites par une personne, un ingénieur, qui s'appelait Gustave Eiffel. Donc là, il y avait ces usines. Et quand le gaz est venu par des tuyaux, hein, les usines de la gaz ont été démolies et à place ont été construits des logements. Et une piscine. On avance, on va aller un peu plus loin, on va remonter à droite.
Je sais pas. Oh, des
qu'est-ce qu'on fait avec ça?
On mange.
Comment ça s'appelle?
La vigne.
Comment?
La vigne.
Très bien. On va descendre. Alors, une chose intéressante, on a parlé tout à l'heure des usines, hein, des gens qui venaient travailler, ils habitaient où?
À la campagne.
Bah non, ils habitaient à Montreuil. Ils venaient comment?
En pied ou en quoi?
Il n'y avait pas de voiture.
Ils marchaient?
Ils marchaient, oui.
En vélo?
Il n'y avait pas encore trop de vélo.
Non, ils marchaient.
Il n'y avait pas le métro, donc ils marchaient. Le tramway, oui. Eh bien, et qu'est-ce qu'ils faisaient à midi? Ils mangeaient où? Alors, soit dans leur gamelle, soit dans des restaurants, comme ça. Ça, c'est une chose importante et intéressante. Il y a plein de restaurants à l'angle des rues, ou pas forcément, on va voir, pas forcément, mais il y a plein. C'est-à-dire qu'à midi, les gens, soit ils mangeaient leur gamelle, ou ils venaient manger dans ce type de restaurant. On remonte vers le nord. Là, il y avait une usine d'ameublement qui a été démoli, qui est resté un terrain vague pendant longtemps, et la ville a décidé d'en faire un terrain de jeu, un terrain d'aventure. Ici, c'était un quartier où c'était les industries où on travaillait. Il y avait des habitations, mais pas beaucoup. Les habitations, c'était plutôt vers le centre-ville et un peu plus bas. Et un peu plus bas, on y trouve l'école Martin-Berthelot, on y trouvera après l'école de la route, l'école Robespierre, mais c'est à peu près tout. Complètement fait pour l'industrie, et donc industrie, ça veut dire travail. Si les gens travaillent, ça leur permet d'élever leur famille, ça leur permet de manger, de se distraire. Il ne faut pas oublier que les gens qui étaient les ouvriers qui travaillaient, les ouvrières qui travaillaient dans les usines, eh bien, ils n'étaient pas, quand ils avaient fini de travailler, ils avaient, soit ils allaient se distraire, ils jouaient de la musique, ils allaient nager dans la Marne, à pied, c'est pas loin, à l'époque, ils jouaient de la musique, ils faisaient du sport, ils allaient à l'université, il y avait une université rue de Paris, l'université ouvrière, où des gens venaient, des gens qui avaient de l'expérience, disaient, moi je sais, je suis philosophe, je suis mécanicien, je fais des mathématiques, je vais expliquer aux autres comment ça va. Et les gens venaient par centaines suivre aussi des cours comme ça. Et il y avait une vie qui était intéressante. Alors ici, c'est un peu morne, un peu, c'est pas vivant, il n'y a pas grand monde. Et le matin, il y a plein de monde qui va prendre le métro, qui sort du métro, qui vient travailler. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il doit être midi pile.
Oh, applaudissez pour monsieur. Voilà. Mérite ça, pas même. Mérite ça.